Europe Soir, le 18-20, Julien Bugy.
18h32, le débat des grandes voix du mercredi avec ce soir à mes côtés Catherine Ney. Bonsoir Catherine.
Bonsoir Julien.
Olivier Duhamel, bonsoir Olivier.
Bonsoir Julien.
Et Louis Dragnel, chef adjoint du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis.
Bonsoir Julien.
Alors ce soir, on va s'intéresser ensemble aux frontières. C'est l'un des enseignements du Grand Bazar britannique. En quelques heures, dimanche, la France a donc décidé de fermer les flux de passagers et de marchandises en provenance de Grande-Bretagne. Plus d'avions, plus de bateaux, plus de trains, suite à la propagation de cette variante du Covid. Alors depuis, les Français qu'ils veulent pourront rentrer avec un test négatif, mais les chauffeurs routiers, eux, eh bien, ils sont toujours bloqués. D'abord, réaction de Jean-Baptiste Djebbari, en charge des transports au sein du gouvernement.
Le président de la République a tenu un conseil de défense et de sécurité nationale et a décidé que la France, comme d'autres pays européens, prenait des mesures de sauvegarde en suspendant les circulations depuis le Royaume-Uni vers la France à compter de ce soir à minuit, non seulement pour les transports de passagers mais aussi pour les transports de marchandises, et ce pour 48 heures au moins.
Voilà, l'annonce officielle donc dimanche dernier, 20 décembre, qui annonce la fermeture des flux avec la Grande-Bretagne. Alors ça pose évidemment la question de la gestion de nos frontières dans cette crise du Covid. Question simple ce soir que je vous pose à tous les trois. Olivier Duhamel, si vous voulez démarrer, pourquoi nous dit-on que fermer les frontières c'est impossible et ça ne sert à rien, alors que l'exemple anglais nous montre précisément l'inverse?
L'exemple anglais nous montre précisément l'inverse, ça reste à démontrer, parce que ce qu'il nous montre à l'évidence, c'est que la fermeture des frontières est une catastrophe pour quantité de gens, et pas seulement pour les gens qui aimeraient venir retrouver les Français fêter Noël, mais pour les pêcheurs, les maraîchers.
Non, mais
maraîchers,
ça montre que si on veut fermer la frontière, on peut le faire, c'est possible. Parce qu'on nous avait dit jusqu'à présent, fermer les frontières, c'est impossible pour limiter les flux de voyageurs qui pourraient nous apporter des contaminations de Covid.
Non, mais je ne sais pas qui a dit que c'était impossible. Ça n'a jamais été impossible de fermer une frontière. C'est juste que ça fait nettement plus de dégâts que d'avantages, c'est tout. Et qu'on est en train de le constater depuis 48 heures. Et que c'est pour ça qu'on a été obligé de tempérer cette suspension.
Bien. Catherine Ney, même réponse.
Moi, je trouve que le dimanche soir... Dimanche soir, Boris Johnson a annoncé qu'il y avait un virus en mutation. Ça a été une sorte de peur, panique partout, oui. Parce que vous dites la France a coupé, mais il y a 50 pays qui ont cessé toute relation avec l'Angleterre. Et moi, je me demande, alors ce virus, alors maintenant on nous dit qu'il n'est pas plus dangereux que l'autre, il est peut-être plus contagieux, mais moi je pense que c'est peut-être une manœuvre de Boris Johnson oui. Parce que regardez, comme par extraordinaire, aujourd'hui, on s'achemine quand même vers un règlement de cette sortie ou non du Brexit, enfin un deal avec les Européens. Et moi, je crois que cette pagaille et cette façon de traiter ces milliers de chauffeurs qui viennent de tous les pays et de France et qui montrent les dommages qu'entraînent des fermetures de frontières, mais on les traite comme des chiens en leur disant, mais écoutez, vous allez vous faire vous allez vous faire tester,
non,
il faut
surtout,
72 heures.
Ça fait 48 heures qu'ils sont à l'arrêt, sans toilettes, sans nourriture, sans eau.
Sans eau, voilà, et sans rien savoir. Et là, moi, je pense que les choses vont se débloquer, parce que peut-être il va y avoir, et je pense que c'est encore un coup politique tordu de Boris Johnson. Voilà.
Non, mais je pose la question sur les frontières, un peu de manière provocatrice, vous en conviendrez, mais parce que c'est vrai qu'on sait que le virus circule par les flux de passagers, notamment qui arrivent des pays étrangers, c'est le cas avec l'Espagne, c'est le cas avec l'Italie. D'ailleurs, cela dit en passant, lors du premier confinement au printemps dernier, on a fermé par endroits les frontières avec certains de nos voisins sans provoquer ce bazar-là, parce que les flux de marchandises ont continué à fonctionner. Mais la question est la suivante, on nous empêche d'aller au théâtre, on nous empêche d'aller au restaurant et on laisse les flux de passagers se contaminer les uns avec les autres. Louis Dragnel.
Ah non, mais de toute façon, depuis le début de cette crise, il y a beaucoup de paradoxes. Mais pour revenir un peu à votre question du contrôle des frontières, les frontières, de manière générale, pendant beaucoup d'années aussi, ont été un totem. Et les gens ont un peu oublié aussi que ça pouvait protéger. Alors là, le contre-exemple, c'est par rapport à la question britannique, puisque il y a beaucoup de camionneurs, de gens qui se trouvent en transit et qui ne savent pas très bien comment faire. Mais il faut revenir...
Le bazar, il est sur les marchandises.
Faut revenir à cette idée aussi que les frontières peuvent aussi protéger. Souvent, vous savez, la question des frontières était associée aux questions migratoires. Et du coup, on s'est progressivement adapté au fait que sur les questions sanitaires, eh bien, c'était nécessaire effectivement qu'on pouvait aussi fermer les frontières. Mais en fait, la plupart du temps, en fait, on se trompe de mots. Là, s'agissant de la Grande-Bretagne, c'est une fermeture, mais la plupart du temps, c'est plutôt du rétablissement des contrôles systématiques aux frontières. Je pense notamment avec la question des gens qui partent skier en Suisse et qui vont revenir. En fait, la frontière n'est pas fermée, c'est simplement qu'il y a des contrôles qui sont beaucoup plus systématiques, qui sont effectuée. Et en fait, ça remonte, enfin, il y a eu une bascule en fait sur cette question-là après les attentats, donc sur la question plutôt terroriste,
oui.
Après les attentats en 2015, et c'était Bernard Cazeneuve qui avait par exemple rétabli le contrôle systématique aux frontières, entre la frontière entre la France et l'Italie.
Et puis ça a été le cas au moment de la crise des migrants aussi, en 2015-2016.
Donc c'est une preuve, pour répondre très précisément, c'est une preuve que réellement, oui, ça peut se faire, et quand le politique veut, il peut le faire.
Alors, contrôler et fermer, c'est pas la même chose.
Oui, entièrement d'accord.
Deuxièmement, c'est pas que les camionneurs. C'est pas que les camionneurs, c'est la partie flagrante et visible. Oui. Mais ce sont
les avions.
Les pêcheurs d'Écosse. Ce sont à Boulogne les gens qui récoltaient la marchandise et qui la distribuaient ensuite. Ce sont ceux qui vendaient pour les fêtes de Noël. Les noix de Saint-Jacques et autres, et encore, ma liste est brève. Et si ça continuait, si c'était vraiment fermé, ce seraient les médicaments qui doivent arriver au Royaume-Uni. Donc, quand on parle, il faut...
Et le papier toilette.
Et en plus, ça, il y a des solutions de rechange. Non,
pas forcément.
On ne veut pas en savoir plus. C'est la différence entre le contrôle et la fermeture.
C'est la différence entre le contrôle et la fermeture, absolument.
Parce que dans un cas, ça filtre, mais ça peut passer, il y a des flux qui sont possibles. Et dans un autre cas, effectivement, il y a un blocage total. Et donc, effectivement, on est sur deux choses.
On se retrouve dans quelques instants, on continue d'en parler. Et puis, on évoquera aussi la manière de réenchanter la France à l'aune de cette fin d'année. Comment Emmanuel Macron peut trouver les clés pour réenchanter nos perspectives à tous. 18h38, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h40, on est toujours avec le débat des grandes voix du mardi. Catherine Ney, Olivier Duhamel et Louis Dragnel, chef adjoint du service politique d'Europe 1. Je voudrais juste qu'on poursuive un instant sur l'histoire de contrôle ou de fermeture des frontières, pour revenir sur ce que vous disiez, Olivier Duhamel. Souvenez-vous ce que disait Édouard Philippe à l'époque Premier ministre, le 1er mars 2020, c'était sur TF1.
En fait, ça ne sert à rien. Si ça servait à quelque chose, peut-être l'aurions-nous envisagé. Ça ne protège pas les virus, malheureusement, traversent les frontières, surtout les frontières qui sont les nôtres, avec d'incessants passages de ressortissants italiens, allemands, belges, mais aussi de ressortissants français.
Il a raison, le Premier ministre, parce qu'on a un peu l'impression qu'on nous prend pour des jambons dans cette affaire-là.
Non, la formulation n'est pas la bonne. C'est pas que ça sert à rien. C'est que ça crée tellement de dégâts de vraiment fermer. Encore une fois, on distingue contrôler et fermer. Ça crée tellement de dégâts de fermer que c'est pire que de laisser le virus circuler.
Je vous pose la question différemment, alors, Olivier Duhamel. Pourquoi n'a-t-on pas plus, depuis le début de la crise, contrôlé les frontières? Vous voyez, il y a un truc très simple. On demande un PCR négatif de moins de 72 heures aux passagers français qui vont revenir de Grande-Bretagne. Mmh. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas avec l'ensemble des pays européens? C'est très simple à mettre en place, ça.
Oui, bonne question. Comme ce n'est pas moi qui ai décidé qu'on le faisait pas,
c'est
pas moi qui peux vous
interroger.
C'est juste pour vous dire que ne me poursuivez pas en justice, je ne suis pour rien.
Non, mais pardon. Il y a quelque chose d'assez simple, c'est que ça a été pendant très longtemps un totem idéologique. Moi, j'en ai même parlé avec l'entourage d'Édouard Philippe à plusieurs reprises. Et il me disait, mais pour Édouard Philippe, par exemple, c'est insupportable l'idée qu'on puisse même contrôler. Alors, il n'était pas question de fermer. Je pense que d'ailleurs, l'ancien Premier ministre, quand il parlait de fermeture, en fait, il s'agissait réellement de contrôle systématique aux frontières. Et pour des gens qui ont grandi dans cette idée que l'Europe devait être ouverte, que tout devait être très fluide, c'est quasiment insupportable de dire que les frontières peuvent protéger. En fait.
Sauf que je me suis replongé dans les textes et les codes frontières Schengen sont clairs. Hein. Ils autorisent les États membres à rétablir temporairement des contrôles à leurs frontières pour des motifs sécuritaires ou sanitaires. On est exactement dans le cas d'espèce,
oui,
Catherine
Ney. Oui, donc on peut le faire. Pourquoi ne l'a-t-on pas fait plus tôt? Eh bien parce qu'on voit les dégâts vraiment des fermetures de frontières que ça peut engendrer.
Contrôle.
Pour faire
on est sur les contrôles.
Oui.
En fait, c'est la première fois qu'il y a une fermeture.
Mais il y a déjà eu des contrôles.
Non, des fermetures, c'est la première fois.
Les fermetures, c'est la première fois, mais voilà, c'est ça.
Il y a eu une fermeture complète, étanche.
C'est pas pour excuser, hein, mais la découverte des ravages, de la persistance, de l'incontrôlabilité, de l'imprévisibilité de ce virus est une chose qui s'est faite progressivement. On aurait peut-être dû comprendre mieux et plus vite. Mmh. Mais c'est plus facile de se dire aujourd'hui, tiens, on aurait dû faire ça là, qu'à ce moment-là.
Mais entre les deux, il y a quand même eu le printemps, et puis ensuite, il y a eu la seconde vague avec le reconfinement qu'on a connu, la fermeture des magasins essentiels, etc. etc.
Et qui, au début du printemps, aurait imaginé une seule seconde qu'on en soit là aujourd'hui?
Moi, ce que j'entends, c'est que depuis le début de cette crise, et pour se préparer à l'arrivée de la seconde vague, le gouvernement nous avait dit, on sera prêt et on fera en sorte aussi de mieux gérer le flux des arrivées de passagers dans les aéroports.
Oui.
Vous savez, les tests PCR et les tests antigéniques, on nous avait dit, ça y est, ils sont là. Ils ont été mis en place le 15 décembre.
Oui, voilà. Et puis tous les gens qui arrivaient dans les aéroports, on ne leur prenait même pas la température, il n'y avait rien. Alors que dans d'autres aéroports européens, au moins il y avait ce contrôle de température.
Est-ce que vous pensez que ce bazar a fait les affaires de Boris Johnson dans sa négociation sur le Brexit, Louis Dragnel ?
Alors peut-être pas dans la négociation, parce qu'elle était quand même déjà très avancée, très aboutie. Hein. On savait que...
Pour son opinion publique à lui.
On était plutôt dans la dernière phase pour son opinion publique. En fait, moi, ce que j'ai entendu, et pour le coup, c'est au sein du gouvernement français, ils pensent réellement que, enfin, première chose, la dangerosité de la mutation du virus n'est pas encore prouvée scientifiquement. Et d'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé a clairement dit que, pour l'instant, il n'y avait pas de chose de vraiment significatif par rapport à l'état du virus actuel. Mmh. Et donc, ce que pensent pas mal de gens au gouvernement français, c'est que Boris Johnson a voulu montrer que, en fait, c'est l'Europe qui se ferme à la Grande-Bretagne et que ce n'est pas l'inverse. Que ce n'est pas la Grande-Bretagne qui se ferme à l'Europe. Or, précisément, le Brexit, quoi qu'on en pense, c'est une décision unilatérale de la part des Britanniques pour précisément sortir de l'Union européenne.
Vous rendez compte que le vote sur cette interprétation.
Vous rendez compte que le vote, parce qu'on oublie, hein, mais c'était il y a plus de 4 ans quand même. Ouais. C'était le 23 juin 2016 quand les Britanniques ont dit yes relativement massivement, 51,9%. Hein, c'est pas passé loin du non, mais ils ont dit yes au Brexit. Olivier Duhamel. Non, vous y ajoutez.
J'ai un tout petit bémol sur l'explication de Louis Dragnel, parce que dans la fierté britannique des Brexiteurs, c'était bien l'idée que c'est le Royaume-Uni qui dit non. Mmh. C'est le Royaume-Uni qui décide. C'est le Royaume-Uni qui s'en va. Et donc, la thèse, c'est la faute de l'Europe. Non, eux, pour eux, c'est plutôt c'est notre décision pour prouver et retrouver notre fierté.
Enfin, c'est le Royaume-Uni, et si on, le Royaume-Uni, si tu penses à l'Écosse...
j'ai corrigé pour des raisons administratives. C'est l'Angleterre, vous avez raison.
Mais ce que nous apprend quand même cette crise et ce grand bazar, c'est aussi l'ultra-dépendance du Royaume-Uni au continent européen.
Ah ben, le Royaume-Uni, c'est clair. Oui.
On évoquait des éventuels membres de
la nature, de fruits et légumes. Non, mais les Brexiteurs, s'il y avait un no deal... Je veux dire, Johnson, il risquait quoi ? Que les Écossais redemandent un référendum pour sortir du Royaume-Uni, et probablement les Irlandais aussi.
Il y a juste une petite chose quand même sur ce sujet, c'est qu'à aucun moment, les Britanniques se sont dit qu'ils allaient être autosuffisants. D'ailleurs, il n'y a aucun pays de l'Union européenne qui est clairement, complètement autosuffisant. Il y a des exportations et des importations. Quelles que soient d'ailleurs les relations entre
les pays. Une fois qu'on est sorti de l'UE, les taxes ne sont plus tout à fait les mêmes. Donc ça change la donne.
Mais justement, tout l'enjeu des négociations entre Johnson et Michel Barnier à la Commission européenne, c'était précisément de négocier des accords commerciaux pour avoir en fait des accords préférentiels. C'était tout le paradoxe aussi de cette histoire. C'est qu'en fait, les Britanniques voulaient conserver un certain nombre d'avantages économiques dont ils bénéficiaient dans le cadre de l'Union européenne, tout en sortant. Donc c'était avoir les avantages
le sur
l'argent du beurre. C'est la raison pour laquelle, si vos informations sont exactes, et je les tiens pour exactes, parce que je fais confiance à la qualité de nos journalistes, à 20h, on va nous annoncer le deal. La vraie raison de l'accord, c'est celle-là. C'est qu'ils ne veulent pas payer le coût exorbitant d'une sortie sans accord.
Alors, il y a un petit point d'interrogation quand même sur la problématique de la pêche. Parce que là, pour le coup, ça pouvait pénaliser les pêcheurs européens, et notamment français, les eaux poissonneuses.
Pas que français, les eaux poissonneuses
sont des eaux territoriales britanniques. Donc, si demain, on n'a plus le droit d'aller pêcher dans ces
les
eaux, c'est vrai que ça peut créer une distorsion de concurrence.
Oui. Mais, je veux dire, ça, c'est... La pêche représente 5% seulement des revenus de la Grande-Bretagne. Tandis que les autres pays qui pêchent dans les eaux anglaises, pas tous les pays européens, mais eux, ça représente entre 15 et 20%. Oui. Donc c'est vrai que là, il y avait un avantage qui était concédé aux Européens parce que les flottes anglaises de bateaux ne sont plus ce qu'elles ont été. Et puis, les Écossais, par exemple, vendent à peu près la totalité de leur pêche, l'a expédié en France et en Allemagne.
Bon, il y a peut-être un choix à faire aussi
et
pour le
réveillon.
Et comme
par hasard, l'accord impossible va être trouvé. Ça va être une histoire. Bon, bah, on fait des quotas révisables à telle échéance, c'était révisable combien de temps, quel quota, tout ça, mais ça va... Voilà.
Parce que là, maintenant, quels que soient les résultats, il va y avoir pendant un an, il va falloir retricoter les nouveaux accords et ça va prendre Michel Barnier.
Il faut que ça soit validé par les 27 en plus.
Par les 27, et là, Michel Barnier n'est pas au bout de son travail, il en a encore pour...
En attendant, on peut manger des noix de Saint-Jacques françaises et pas forcément britanniques, parce qu'il paraît qu'ils sont exportateurs massivement de noix de Saint-Jacques.
S'il y en a assez.
18h48, on se retrouve dans quelques instants, on va essayer de se projeter sur l'année 2021. Comment retrouver espoir ? On va tâcher d'apporter des solutions. À tout de suite.